Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Entre nous, à quoi penses-tu en général ?
À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban.
Lui, il a bien fait de quitter la capitale du Tarn-et-Garonne, où il est né il y a 76 ans. Sans Louis, l'histoire industrielle française aurait pris une autre teinte. L'Énarque a laissé une marque indélébile à la Snecma, à l'aérospatiale et chez Airbus, sans oublier à la SNCF, avant de participer modestement au plus gros deal de l'histoire automobile française, la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et ensemble, on va s'intéresser à l'homme qui vouait une passion à l'industrie française.
Je suis heureux d'être avec vous en ce jour historique. Au cours de ma longue vie professionnelle, j'ai rarement eu autant qu'aujourd'hui le sentiment de vivre un moment d'histoire.
C'est ce qui s'appelle sortir par la grande porte. Louis Gallois, président du conseil de surveillance de PSA, va quitter son poste après la concrétisation de la fusion avec Fiat Chrysler. Dans un entretien aux Échos, il s'est décrit comme un pacificateur dans la gouvernance, laissant à Carlos Tavares, le patron de PSA, les lauriers de la gloire. C'est la conclusion tout de même d'un formidable parcours de celui qui possède le plus beau CV de l'industrie française. Les mots sont de Julien Dupont-Calbeau, chef du service industrie aux Échos. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous avez dressé dans les pages du journal le portrait de Louis Gallois avec Bruno Trévidic et Lionel Steinmann qui l'ont côtoyé chez Safran, Airbus ou à la SNCF. C'est une carrière longue de près de 50 ans pour se diplômer d'HEC et de l'ENA. Prendre sa retraite à l'issue de la fusion PSA-Fiat et de la création d'un champion européen de l'industrie automobile, c'est tout un symbole du parcours de Louis Gallois.
Oui, forcément, parce qu'on a des usines, de l'Europe, des choses compliquées, des personnalités délicates à gérer, et puis des dossiers très sensibles. C'est en effet le cocktail qu'a bu Louis Gallois durant toute sa longue carrière. Puis c'est aussi le symbole d'une page qui se tourne avec lui, c'est celle du capitalisme d'État, celle d'industriels, de grands groupes qui sont avant tout français, puisque PSA qui se marie avec Fiat et Chrysler, c'est en fait Peugeot qui se mondialise et qui suit les traces de Renault.
Ce fut un grand commis de l'État avant d'être un industriel ?
Ouais, sans doute, parce que ne serait-ce que factuellement, quand on regarde un petit peu la chronologie, Louis Gallois a commencé sa carrière dans différents ministères, à Bercy, à la Défense. Il fut directeur général de l'industrie, c'était dans les années 80. Puis après, il a été propulsé patron à la Snecma. À l'époque, la Snecma concevait le moteur du Rafale. Après, c'était l'aérospatiale, donc la dissuasion nucléaire. Puis après, c'était la CNCF, EADS. Et donc finalement, en fait, c'est chez PSA qu'il a sans doute été le plus privé, enfin entre guillemets. Mais en même temps, il est arrivé dans les bagages de l'État hein, chez Peugeot. Et d'ailleurs, ceux qui le critiquent, parce qu'en cherchant bien, on peut quand même en trouver certains, comme pour tout le monde, disent qu'il a parfois fait passer les intérêts publics avant ceux de la SNCF, par exemple.
J'ai tout fait sauf banquier, voilà, c'est ce qu'il dit hein, de cette carrière riche. Alors, c'est un homme présenté aussi comme discret. Que vous ont dit ses amis, ceux qui l'ont côtoyé et qui, du coup, ne le critiquent pas trop, j'imagine ?
Non, forcément, ça sert à ça, les amis, ça critique pas. En fait, ils disent qu'il est plutôt sûr de lui, de ses qualités, mais qu'il veut surtout pas se mettre en avant. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il aime pas. Et d'ailleurs, moi, je l'ai côtoyé pendant quelques années quand je couvrais de près l'actualité de PSA. Et en fait, il s'est toujours enfui devant mes questions. Il s'est toujours réfugié derrière Carlos Tavares, le patron du groupe. Et d'ailleurs, il nous l'a redit quand on l'a eu en interview, c'était pendant les fêtes, qu'il n'était vraiment pas à l'aise avec les portraits intimes. La seule exception à sa règle, en fait, c'est il accepte de se mettre en lumière pour le bien de sa cause. Par exemple, à la Stecma, il dit « on vend des moteurs, pas des PDG ». Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à se mettre en avant, à parler de lui, mais vraiment que si ça sert ses intérêts du moment.
Je ne connais pas d'autres chefs de grande entreprise avec autant le sens de l'intérêt général et aussi désintéressé. Louis, c'est un être unique. C'est ce que vous a confié un autre Louis, figure marquante de l'industrie française, Louis Schweitzer, ancien patron de Renault. À Bercy, qu'il a fréquenté au milieu des années 80, on l'appelait le trésor national vivant, de quoi mettre à mal la modestie de ce grand patron. Chez PSA, pour la fusion avec Fiat, Carlos Tavares était à la manœuvre, mais il a pu, Julien, apporter quand même son expérience passée des grands deals industriels, toujours complexes à mettre en œuvre.
Je pense qu'il a surtout apporté son sens de la diplomatie avec les actionnaires de référence de PSA, parce que quand il est arrivé, donc c'était en 2013-2014, c'était vraiment la crise chez PSA. La famille Peugeot a accueilli pour la première fois de deux siècles d'histoire du groupe industriel de nouveaux actionnaires à ses côtés. Donc c'était l'État français d'abord et Louis Gallois dans les bagages, et puis le groupe chinois Dongfeng. Et donc il a vraiment fallu que Louis Gallois fasse preuve de toute sa diplomatie en fait pour réussir à faire vivre ensemble ces actionnaires-là qui avaient des intérêts et des vues forcément différentes.
Il avait de l'expérience, hein, notamment lors de la création du consortium européen EADS devenu depuis Airbus.
Oui, bah dans l'interview qu'on a fait avec lui, il revient justement sur la difficulté de faire vivre des gens issus de pays différents. Après, il dit aussi que c'est aussi une des forces d'un grand groupe industriel mondial, c'est d'avoir différentes cultures qui se partagent le pouvoir. Il racontait que justement c'était l'une des forces de EADS et donc d'Airbus par rapport à Boeing, qui est vraiment très américain, alors que EADS et Airbus est vraiment un profil pan-européen.
Louis Gallois, hein, donc c'est une carrière au sein de l'État, c'est aussi une carrière dans de grands groupes industriel ou à la SNCF. Et finalement, tout au long de son histoire, il a conservé une image de patron de gauche.
Ben je pense. Après, bon, il y a gauche et gauche, on va me dire. Mais c'est sûr que c'est quand même... Je lisais il y a pas très longtemps la réaction du portrait qu'on a fait de lui. Et effectivement, les gens rappelaient que c'était quelqu'un qui avait refusé des primes, accepté des salaires limités par rapport à d'autres patrons, refusé des salaires même quand c'était la crise. C'est aussi quelqu'un qui a toujours eu un discours assez particulier sur le thème de la rémunération des patrons. Il faut se rappeler aussi que quand il avait fait son rapport Gallois sur l'industrie française, c'était il y a bientôt 10 ans maintenant, il avait proposé que les conseils d'administration des grands groupes soient composés pour le tiers de salariés, de représentants des salariés. Et il trouve toujours que c'est la bonne proportion, il nous a reparlé, puisque c'est une solution qui permettrait aux entreprises de prendre en compte toutes les vues et pas seulement celles des actionnaires.
Oui, cette étiquette, ça a été un atout pour réussir à la SNCF, dont il a été le patron pendant 10 ans.
Forcément, la SNCF, c'est quand même une entreprise très particulière dans le paysage industriel français, et donc des services. Louis Gallois a fait un passage très réussi à la SNCF. Les cheminots en parlent encore avec émotion, et lui parle aussi des cheminots encore avec émotion. C'est sans doute l'expérience qu'il a le plus touché. Et pour la petite histoire, c'est un petit peu paradoxal, mais il a été nommé là-bas par l'un de ses camarades de l'ENA. C'était Alain Juppé, donc c'était pas forcément quelqu'un de gauche.
Quels ont été justement ses rapports avec le monde politique ?
J'imagine qu'ils ont évolué avec les années. Tout jeune homme, Louis Gallois était un militant socialiste acharné, tendant chevènement, dont il fut longtemps le directeur de cabinet. On nous a raconté qu'il tractait. Il a même participé à la création d'une section au CFDT, la direction du Trésor à Bercy. C'était une première. Puis il faut vraiment savoir que sa carrière a été propulsée par l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée en 81. Il faut aussi savoir qu'il a rendu sa carte du PS au moment de la première guerre du Golfe, parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique de la France à cette époque. Et aussi qu'au crépuscule de sa carrière, donc c'était vers 2012-2013, il a refusé le poste, le ministère de Bercy que lui proposaient Hérault et Hollande. D'après ce que j'ai compris, il voulait pas s'exposer, lui et sa famille, à la furia politique. Il vivait pas forcément très bien les arrangements que la politique suppose. À l'époque, vers 2012-2013, c'était que les débuts des réseaux sociaux, mais c'était quand même déjà violent.
Il s'en était d'ailleurs expliqué à l'époque sur France Info. Voici ce qu'il avait dit en substance. « J'ai été 23 ans chef d'entreprise et les chefs d'entreprise ne font pas de bons ministres. Il faut connaître les codes de la politique et ce n'est pas en étant chef d'entreprise que vous apprenez les codes de la politique. »
Oui, je pense que c'était incompréhensible pour de gagner plusieurs millions d'euros par an.
2,5 millions d'euros par an,
oui,
c'était le maximum.
Oui, mais ce sont des chiffres qui ne peuvent pas parler aux gens. Je trouve que ça me posait à moi un problème que je résolvais à ma manière, c'est-à-dire en affectant à des actions socialement utiles une partie, mais je gagnais à EADS
plus de 10 fois plus qu'à la SNCF, avec un niveau de responsabilité pourtant totalement comparable. Et je comprenais pas très bien pourquoi j'avais multiplié ma rémunération par 10 ou 12.
On vient d'entendre Louis Gallois, c'était fin 2012, sur Europe 1, au micro de Nicolas Poincaré, qui l'interrogeait en tant que président de la Fédération des acteurs de la solidarité, qu'il a dirigé pendant 8 ans. Il défendait à l'époque la hausse du RSA, notamment pour les jeunes. C'est un sujet qui redevient d'actualité. Il évoquait aussi la question de la rémunération des PDG, qui fait souvent les gros titres. On se souvient de la polémique autour du salaire de Carlos Ghosn. Son discours tranche sur cette question.
Je pense que comme beaucoup en France, il est partagé. D'une part, il y a une grosse partie de lui qui trouve ses salaires stratosphériques et déconnectés de la réalité du commun des mortels. Mais de l'autre côté, il sait bien aussi qu'il y a un marché international des dirigeants, donc c'est toujours un sujet extrêmement complexe, difficile à trancher. Il nous a rappelé que effectivement la France était quand même dans la moyenne des salaires des grands patrons, et il nous a aussi dit que c'était une question d'éthique personnelle, c'est-à-dire que c'est le patron, le matin, quand il se regarde dans la glace, et qui peut se dire « est-ce que je suis pas trop payé par rapport à ce que je fais ? Est-ce que la différence de salaire par rapport à mes salariés n'est pas trop élevé. » Bon, quant à Carlos Ghosn, effectivement, on va dire que heureusement que c'était un autre Carlos qui était chez PSA, hein, parce que Carlos Tavares, il n'a pas tout à fait le même rapport, on va dire, à l'argent et aussi une extérieure de richesse que Carlos Ghosn, et que Carlos Tavares et Louis Gallois se rejoignent là-dedans. C'est quand même des gens, quand ils étaient dirigeants, et Carlos Tavares l'est toujours, qui demandaient à leurs troupes et à leurs dirigeants de voyager en seconde classe et pas en première.
Je n'isole pas le coût du travail, il y a d'autres coûts, il y a le coût de la fiscalité, il y a le coût de l'énergie, il y a le coût des matières premières, il y a le coût des services. Il faut avoir une vision globale. Ce que je propose, c'est face à la glissade dans laquelle l'industrie française est entraînée, face au décrochage, une mesure d'urgence qui permette de relancer l'investissement. Et ce que je propose, c'est donner de la marge de manœuvre aux entreprises pour qu'elles puissent investir. C'est ça qui est important.
En 2012, Louis Gallois était l'invité de France 2 pour défendre avec passion son rapport consacré à la compétitivité des entreprises. Ces dernières années, il s'est beaucoup engagé en faveur de l'industrie française. Ce rapport, Julien, c'est un marqueur fort de sa passion pour l'industrie Made in France.
Oui, c'est son ami Jérôme Clément, qui a été lui le patron d'Arte, qu'il connaît depuis sa jeunesse, nous a raconté que c'était vraiment l'industrie qu'il avait toujours animée. Il a toujours voulu travailler dans l'industrie, même tout jeune. Et aujourd'hui, il semble un petit peu désolé de la tournure des événements, parce que c'est vrai que depuis 30 ou 40 ans, c'est un peu la catastrophe pour l'industrie française. Il suffit de regarder l'évolution de la balance commerciale. C'est vraiment une grande dépression qui semble ne jamais s'arrêter. Mais en fait, il ne lâche pas l'affaire. Et c'est quand même lui, avec son rapport, qui a quand même arrimé la gauche républicaine à la politique de l'offre, qui a essayé de secouer le cocotier. Et on a vu encore avec la crise sanitaire, qui a vraiment mis en lumière très cruellement nos failles industrielles. Savoir produire différentes choses sur un territoire, c'est quand même important pour une autonomie et une indépendance.
Vous connaissez la chanson de Gilbert Bécaud, et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il va faire ?
Bah écoutez, il nous a dit qu'il allait écrire pour défendre l'industrie, pour défendre le progrès aussi, lutter contre la décroissance. À la décroissance, il trouve ça que c'est pas une bonne idée. Il va aussi poursuivre ses engagements associatifs qui sont assez importants, hein, pour l'emploi, contre le mal logement. Et puis j'imagine qu'il va profiter de la vie et de sa famille, même si c'est vrai, ce type de personnage-là, en réalité, ne lâche jamais le manche. Hein. J'imagine qu'il va pas résister très longtemps. On peut pas le laisser dans son potager cultiver ses tomates. À mon avis, il va vraiment continuer à s'exprimer dans le débat public.
Notre drame, c'est que depuis 30 ans, on a laissé filer l'industrie française. Depuis le début des années 90 jusqu'à 2010-2015, on a laissé filer l'industrie française. Pourquoi ? D'abord parce que les coûts ont été peut-être excessifs, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu de véritable priorité donnée à l'industrie.
En juin dernier, Louis Gallois répondait à Elisabeth Martichoux sur LCI sur les impacts de la crise du coronavirus. Il est revenu sur la nécessaire réindustrialisation du pays, son cheval de bataille. Gallois et l'industrie française, une histoire mêlée. Sur les conseils de Daniel Fortin, rédacteur en chef des pages ID aux Échos, j'ai appelé l'économiste Élie Cohen, directeur de recherche émérite au CNRS. Il est l'auteur, avec Pierre-André Bouygues, du livre « Le décrochage industriel » publié chez Fayard. On a d'abord discuté de l'apport de Louis Gallois à l'industrie française.
Si vous voulez, Louis Gallois, c'est une figure triple. C'est d'abord le prototype du haut fonctionnaire à la française. Il a passé toutes les étapes. Il a rempli des fonctions très importantes au ministère de l'Industrie. C'est en même temps un grand patron du public, puisqu'il aura été patron à la fois d'Airbus, de la SNCF, et il aura été également un grand militant social de la responsabilité sociale de l'entreprise, et je dirais même de la responsabilité individuelle de l'entrepreneur vis-à-vis de la société. Donc c'est presque trois histoires qu'il faudrait raconter. Il faudrait raconter le Louis Gallois qui a officié au cabinet de Chevènement, au ministère de l'Industrie, qui s'est occupé de tous les grands dossiers industriels quand la gauche était au pouvoir. Il faudrait évoquer ensuite toutes les présidences qu'il a assurées dans l'aéronautique, dans le transport ferroviaire et puis pour finir dans l'automobile. Et il faudrait évoquer son action en militante en faveur de la réinsertion des chômeurs, en faveur de la diversité. C'est vraiment un homme qui aura eu trois vies en une et donc je ne sais pas trop par quoi commencer.
On va commencer, si vous voulez, par son rapport, notamment le fameux rapport Gallois publié en 2012. À l'époque, vous aviez déclaré que vous n'en attendiez pas grand-chose. Je cite, « Nous n'avons pas besoin d'un rapport supplémentaire sur la compétitivité. Nous en avons plein nos bibliothèques. » 8 ans après, on peut quand même avoir l'impression qu'il a ouvert les yeux d'une partie de la classe politique sur les manques de l'industrie française.
Vous auriez dû me citer complètement parce qu'effectivement, j'ai dit que nous n'avions pas besoin d'un rapport supplémentaire. Mais j'avais ajouté immédiatement que son grand mérite, ça avait été d'introduire les problématiques de compétitivité coût et hors coût auprès de la gauche, et notamment auprès de la gauche gouvernante. Et de ce point de vue-là, son apport a été considérable parce que ça a été un passeur entre ceux qui travaillaient sur les problèmes de compétitivité depuis longtemps, qui avaient identifié les faiblesses du système productif français, qui avaient dit très très tôt que la France était sur une voie de désindustrialisation et qui avaient signalé notamment le fait que le problème de compétitivité coût était aussi important que le problème de compétitivité hors coût. Or, dans le débat politique français, nous avions une habitude détestable, c'est que la droite pointait en permanence les problèmes de compétitivité coût en pointant le fait que les charges sociales et salariales étaient trop importantes, notamment par rapport à l'évolution de la productivité, alors qu'à gauche, on ne reconnaissait que des problèmes de compétitivité hors coût et on insistait sur la faiblesse de l'innovation, etc. Et j'avais dit donc dès le départ que le grand mérite de Louis Gallois, c'était de faire reconnaître à la gauche que la France avait un problème et de compétitivité coût et de compétitivité hors coût. Et donc, le principal mérite de son rapport à mes yeux, c'était de dire qu'il fallait un choc de compétitivité. Et seul un homme venant de la gauche, qui avait été le bras droit de Chevènement, était capable de dire à la gauche qu'il y avait un problème de compétitivité coût. Donc oui, je reconnais le mérite de ce rapport gallois, encore une fois, pas tellement pour les informations qu'il nous apportait. Je vous rappelle que, en toute modestie, en 1974, déjà, dans le cadre d'un rapport du commissariat au plan, je pointais les problèmes de compétitivité coût. Mais je n'étais absolument pas original de ce point de vue. On a un vrai problème en France, depuis très très longtemps, qui est qu'on a beaucoup négligé les problèmes de compétitivité et il fallait sans doute une voix éminente de gauche pour le rappeler à la gauche.
Oui, dans un entretien aux Échos, Louis Gallois a reconnu d'ailleurs que le bilan de l'industrie française de ces 30 dernières années n'était pas bon. J'imagine que c'est un constat que vous partagez.
Écoutez, encore une fois, j'avais sorti un livre en 82, je crois, qui s'appelait « L'État brancardier », sous-titre « Politique du déclin industriel ». 82, donc si vous voulez, et je pointais déjà les effets de la première vague de désindustrialisation, 79-82, et je décrivais les mécanismes de sauvetage des entreprises à travers des institutions qu'on avait inventées, qui étaient d'abord le CIASI, puis ensuite le CIRI. Donc vous voyez, la problématique de la désindustrialisation française est une problématique très, très, très ancienne. Et alors, vous avez raison, on a mis beaucoup, beaucoup de temps dans la classe politique française à réaliser le problème parce qu'on croyait qu'il suffisait d'applaudir aux exploits industriels de quelques grands leaders pour se sentir engagé en faveur de l'industrie. Mais le drame en France, c'est que les grands projets colbertistes dans le domaine du nucléaire, du spatial, de l'aéronautique civile et militaire, des télécoms, ont souvent masqué la faiblesse du terreau industriel et le déclin progressif du terreau industriel, notamment ce fameux tissu d'ETI qu'on n'a jamais réussi à avoir, et notamment cette érosion continue des positions des PME qui ne parvenaient pas à garder leur indépendance et qui, du coup, en entrant dans la mouvance d'un grand groupe, devenaient de purs sous-traitants. Donc cette difficulté que nous avons eue à constituer un massif industriel pour supporter nos grands groupes et le fait qu'on ait eu cette dichotomie entre grands groupes qui réussissaient, notamment en s'expatriant et en délocalisant et petites et moyennes entreprises qui n'arrivaient pas à grossir. Cette dualité de notre système productif, c'est quelque chose qu'on a pointé très tôt, un certain nombre, et qu'on n'a pas réussi à corriger suffisamment tôt, parce que, encore une fois, les politiques étaient obnubilées par les grands groupes, les grands contrats, les grandes entreprises, les champions nationaux, et ne se souciaient pas assez du terreau industriel que j'évoquais.
La crise sanitaire que l'on traverse justement, est-ce qu'elle peut être, est-ce qu'elle doit être l'occasion d'une réindustrialisation, au moins partielle, de la France?
Ah, tout à fait. Si vous voulez, la découverte qui a été faite à l'occasion de cette pandémie, qui est, je dirais, presque une double découverte. On a découvert à la fois nos insuffisances typiques en matière de principes actifs pharmaceutiques, de certaines spécialités pharmaceutiques, mais également de produits aussi banals que des masques, que des réactifs, que des écouvillons. Cette découverte-là a été, à mon avis, une découverte majeure, bien entendu pas pour les spécialistes qui connaissaient le problème, mais pour le grand public, parce qu'ils ont découvert trois choses à la fois nos insuffisances dans ces domaines-là, premièrement, deuxièmement, notre incapacité, à partir du moment où nous avions découvert le problème, à monter rapidement en charge pour combler les trous qui avaient été découverts, c'est-à-dire que le passage d'une économie de paix à une économie de guerre n'était même pas possible, tant nos insuffisances étaient majeures et tant les creux s'étaient creusés dans les écosystèmes et notamment dans l'écosystème pharmaceutique, il n'était pas possible simplement de monter en charge rapidement. Et puis trois, ça a été la découverte que nous nous reposions pour la fourniture de biens sanitaires essentiels sur des pays et des entreprises, parfois en situation de monopole. La découverte que pour les principes actifs du paracétamol, il y avait une espèce de quasi-monopole indien et pour les autres principes actifs chinois a été un véritable traumatisme. Mais en même temps, la découverte qui a été faite, c'est que quand bien même on voudrait reconstruire de toutes pièces ce qui a été perdu, eh bien, un, ça ne serait pas nécessairement possible. Deux, ça serait particulièrement coûteux. Et trois, ça nécessiterait un certain nombre d'évolutions, pas simplement économiques et industrielles, mais également réglementaires. Parce que si nous avons perdu l'industrie des principes actifs pharmaceutiques, c'est largement à cause de réglementations environnementales. Donc cette découverte, à mon avis, est en train de conduire à une réflexion fondamentale sur les trous dans notre système productif, avec, un, la désignation d'un certain nombre de secteurs stratégiques. On ne va pas réindustrialiser et relocaliser, par exemple, des usines automobiles qui sont parties en Turquie ou au Maroc. Donc, qu'est-ce qui est véritablement stratégique, hein ? Deux, qu'est-ce qui est relocalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Quand vous avez des chaînes de valeur qui sont hyper fragmentées, c'est-à-dire un médicament, c'est un assemblage de toute une série de composants qui sont fabriqués dans 36 lieux différents, dans 36 pays différents. Donc, vous ne pouvez pas reconstituer sur votre territoire ces chaînes de production perdues. Donc, quel est le composant ou quel est le segment de la chaîne de valeur qu'il est indispensable de relocaliser? Trois, est-ce qu'il faut nécessairement relocaliser sur le territoire national ou est-ce que la bonne maille géographique, ce n'est pas la maille européenne? Et quatre, à défaut de relocaliser, est-ce qu'il ne faut pas développer ce qu'on appelle la résilience industrielle, c'est-à-dire des politiques de stock, des politiques de diversification d'approvisionnement? Donc, vous voyez, c'est toute une stratégie qui doit être menée et qui commence à être menée filière industrielle par filière industrielle pour voir ce qui peut être localisable, ce qui nécessite des stocks de précaution, ce qui nécessite une diversification des fournisseurs. Vous voyez, c'est une immense tâche, mais au-delà même de tout ça, cette affaire de la crise pharmaceutique que nous avons découverte, ça a été également la révélation que non seulement nous avions perdu pied en matière de production, en matière de fabrication sur le territoire national, mais que nous avions perdu pied même en matière d'innovation. Les difficultés incroyables que nous avons aujourd'hui dans le domaine du vaccin anti-Covid, c'est de montrer, un, que nous n'avons pas été capables de susciter l'innovation et les start-up qui se sont développées ailleurs et qui sont développées notamment dans des filières biotechnologiques particulièrement innovantes comme les vaccins mRNA, aussi bien en Allemagne qu'aux États-Unis. Et il est triste de ce point de vue-là que Moderna ait été créée par un Français qui vient de l'Institut Mérieux et qui n'a pas pu créer ou développer son entreprise en France, ce qu'ont su faire les Allemands. Donc, d'une part, pas capable de développer un tissu d'entreprises innovantes, de start-up innovantes dans les biotech, et deux, sclérose d'une tradition vaccinale pastorienne qui fait que nous ne sommes pas capables, même avec les filières traditionnelles du vaccin, d'aligner un vaccin qui soit dans la course. Donc, faiblesse de notre commerce extérieur pharmaceutique, faiblesse de notre production pharmaceutique et faiblesse de notre capacité d'innovation et de renouvellement des produits.
On comprend bien que de toute façon, cette crise a favorisé une prise de conscience, on va dire, de tous ces problèmes, notamment de la part du gouvernement. Il y a déjà eu une réaction. La baisse de l'impôt de production, ça va dans le bon sens ?
Oui, bien entendu. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que révèle cette crise de l'industrie pharmaceutique, c'est d'abord une crise industrielle. Parce que ce qu'on observe dans l'industrie pharmaceutique, on l'observe dans l'automobile, on l'observe dans la chimie, et on l'observe même dans l'agroalimentaire. Donc, il y a d'abord un fond de dégradation continue de la compétitivité de l'ensemble des secteurs industriels. Et donc, la baisse des impôts de production, c'est déjà un moyen de s'aligner sur nos concurrents en matière, je dirais, de compétitivité générale pour essayer de faire en sorte que des productions continuent à être localisées sur le territoire national.
Merci Eli Cohen, directeur de recherche émérite au CNRS, et merci à Julien Dupont-Calbeau, chef du service industrie aux Échos, pour ce portrait d'un chef d'entreprise passionné. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous et partagez vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.